Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les États-Unis et l'Iran sont-ils sur le point de signer un accord? C'est ce qu'affirme Donald Trump qui a annulé les frappes prévues hier soir sur le pays. Téhéran dit n'avoir rien acté. Nous serons en direct de Los Angeles. C'est parti pour 5 semaines de compétition. Le mondial a bien démarré avec une victoire tout à l'heure de 2-1 de la Corée du Sud contre la République tchèque. Et puis un nouveau rebondissement dans l'affaire Liana. Les États-Unis avaient déjà alerté sur le comportement en ligne de Jérôme Barella.
Alors cette fois, est-ce que c'est la bonne? Donald Trump assure qu'un très bon accord, je le cite, très bon accord a été trouvé avec l'Iran.
Le président américain l'a affirmé hier soir depuis le bureau ovale, juste après avoir annulé des frappes prévues contre le pays.
Nous venons de trouver un très bon accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran et une fois les documents finalisés, ce qui devrait être fait dans les prochains jours, nous aurons probablement une signature, peut-être en Europe, et c'est une excellente chose.
Nicolas Pelletier, vous êtes en direct des États-Unis ce matin à Los Angeles pour RMC. Pour l'instant, l'Iran dément de son côté, Nicolas.
Oui, l'Iran n'a pas encore abouti à une conclusion définitive concernant l'accord. Voilà ce que dit ce matin le porte-parole de la diplomatie iranienne à la télévision d'État. Téhéran n'a donc pas encore tranché. Version très différente de Donald Trump qui hier n'a pas dévoilé le contenu de ce possible compromis. Mais le président américain a quand même assuré qu'il entraînerait une réouverture immédiate du détroit d'Ormuz et l'impossibilité pour l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Il avait même ajouté que le guide suprême iranien avait validé cet accord. Comme pour apaiser la situation, le locataire de la Maison-Blanche a annoncé sur son réseau social qu'il annulait toutes les frappes prévues contre l'Iran. Ces deux derniers jours de bombardements massifs ont pu faire bouger les lignes, même si la prudence est de mise. En début de semaine, Donald Trump avait déjà promis un accord avec l'Iran avant subitement de faire volte-face. Si cet accord est signé en Europe dans les prochaines heures, Donald Trump ne s'y rendra pas. Il enverra son vice-président Jed Evans. Le président américain accueille dimanche un tournoi de MMA à la Maison-Blanche, le jour de son 80e anniversaire.
Nicolas Pelletier, en direct des États-Unis pour RMC.
Et le face-à-face ce matin sur RMC, BFM TV, à 8h30, Marie Chantrey reçoit le général Patrick Dutartre, général de l'armée de l'air, pilote de chasse et ancien leader de la patrouille de France.
C'est une des conséquences de cette guerre, la flambée des prix du carburant qui devait être amortie par le coup de pouce du gouvernement, une aide de 100 euros qui devait être versée la semaine dernière aux grands rouleurs. Mais il faudra encore attendre quelques jours, information RMC, qu'on vous détaille dans le journal de 7h30.
Et que vous pouvez d'ailleurs déjà détailler au 32-16. Vous avez fait cette demande, vous attendez le chèque, il n'est pas arrivé, vous nous le dites au 32-16. Il est 7h03, ça y est, la Coupe du Monde a officiellement démarré.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et on la vit minute par minute sur RMC avec la victoire il y a une heure environ de 2-1 de la Corée du Sud contre la République tchèque. Hier soir, c'est le Mexique qui a ouvert le bal après une cérémonie d'ouverture. Shakira a laissé place au jeu et les Mexicains ont parfaitement démarré leur mondial. Victoire 2-0 contre l'Afrique du Sud. Edgar Grollo.
Une ambiance de dingue au coup d'envoi, 2 buts pour le Mexique, certains supporters en ont pleuré et tous ont vécu un moment hors du temps.
J'avais la chair de poule, c'était incroyable. On était là dès 7h du matin en train d'encourager le Mexique. Il n'y a pas deux pays comme nous, vive le Mexique.
Une atmosphère unique qu'ont ressenti les joueurs comme le défenseur Israël Reyes.
Dès notre arrivée au stade, on entendait les supporters, ils l'ont vécu d'une manière unique, ils ont profité et on l'a ressenti à chaque instant.
Son coéquipier, le milieu de terrain Eric Lira, n'en revient pas.
Je crois que je ne réalise pas encore ce qui s'est passé. Ça faisait 40 ans qu'on attendait ça. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Du coup, je me rends compte que tous mes efforts pour en arriver là en ont vraiment valu la peine.
Au-delà du résultat, le Mexique est entré dans l'histoire du football hier. C'est le premier pays à accueillir 3 éditions de la Coupe du Monde.
Et pendant ce temps, les Bleus se préparent avant leur match contre le Sénégal mardi. Ils ont pris leur quartier à Boston. Premier entraînement sous 30 degrés hier.
Il est 7h04 sur RMC. La commune de Fleurance s'apprête à dire adieu à Liana.
Les obsèques de la collégienne de 11 ans cet après-midi dans cette commune du Gers. Cérémonie ouverte au public avant une inhumation dans la plus stricte intimité. La petite fille retrouvée morte il y a une semaine. Et depuis hier, il y a de nouvelles révélations. Celle du journal Le Monde sur le suspect Jérôme Barella. Son comportement en ligne avait alerté jusqu'aux États-Unis, des signalements transmis ensuite aux autorités françaises et pourtant jamais exploités, Nicolas Ginestière.
Ces alertes provenaient du NCMEC, organisme américain de lutte contre la pédocriminalité. Sa spécialité, centraliser des données sur les activités suspectes en ligne d'internautes et les communiquer aux polices de chaque pays. Plusieurs alertes avaient été transmises à l'Office des mineurs en France sur le comportement suspect d'un individu, identifié depuis comme Jérôme Barella. Ces signalements n'ont été découverts qu'après le début de l'affaire Liana, quand policiers et gendarmes ont reçu l'ordre d'investiguer sur le quadragénaire. Chaque année, près de 200 000 signalements sont transmis à l'Office des mineurs par le NCMEC, selon une source à BFM TV. Bien souvent, ils ne mentionnent pas d'identité précise, mais des informations partielles, comme un simple pseudonyme.
Et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, se dit tout à fait favorable à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de la justice dans cette affaire, à condition, dit-elle, que cela n'empêche pas d'agir. Comme d'autres hommes politiques et femmes politiques, Jordan Bardella estime que ces défaillances auraient dû pousser Gérald Darmanin à présenter sa démission par honneur. Mais le garde des Sceaux a toute la confiance du Premier ministre, Sébastien Lecornu.
Moi, vous savez, si j'ai souhaité tenir depuis le début le gouvernement loin des affaires partisanes, loin de l'élection présidentielle, c'est précisément pour ne pas être perturbé par tout cela. Ce qui me permet de redire évidemment la confiance dans l'action que le garde des Sceaux est en train de mener. C'est bien que le gouvernement justement se tienne loin des affaires politiciennes.
Il y a la question de la réponse à donner à l'émoi de toute la nation finalement après cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut changer? On va en parler dans un instant. Et puis le débat sur Gérald Darmanin, est-ce qu'il peut tenir à son poste encore? Ce sera le débat voix de droite, voix de gauche à 7h50 sur RMC tout à l'heure.
Le verdict dans le procès de la mort d'Elisa Pilarski, son compagnon Christophe Hellul, condamné à 4 ans de prison avec sursis. Son pitbull Curtis devra être euthanasié. Le tribunal a estimé que le maître a entraîné son chien jusqu'à ce qu'il soit conditionné à l'attaque. C'est après ces graves morsures qu'Elisa Pilarski avait été retrouvée morte il y a 7 ans.
Dans une heure, les élèves de première vont plancher sur la toute nouvelle épreuve du bac en maths.
Une épreuve anticipée pour les premières générales et technologiques, des candidats qu'on imagine forcément stressés d'essuyer les plâtres de ce nouvel examen. Ils témoignent au micro RMC de Louise Salé.
Cette épreuve ne représente que 2% de la note finale du bac, mais Fatima la redoute beaucoup.
On nous a mis une très grosse pression, on nous a dit que cette année qu'on aurait un bac, sachant que l'an dernier il n'y avait pas ça. On ne voulait pas du tout faire maths, donc nous l'imposer, c'est extrêmement dur. Là je ne sais même pas si par exemple moi je vais m'en sortir avec plus de 5 sur 20.
Une contrainte angoisse, surtout les candidats, l'interdiction de la calculatrice.
Il va falloir faire des calculs par nous-mêmes, mais ça prend plus de temps.
Enfin, pendant des années on apprend à calculer avec la calculatrice et là d'un coup on les enlève. Et je pense que c'est pour ça en fait il y a ce stress à cause de, il n'y a pas de calculatrice, c'est nouveau. On ne sait pas, on voit en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre.
Depuis quelques années, près de 60% des bacheliers en filière générale ne passaient aucune épreuve écrite du bac en maths. Vincent Lautoré, qui enseigne cette matière dans un lycée parisien, se réjouit donc de ce nouvel examen.
C'est plutôt un signal positif de se dire que, de nouveau, on considère que tous les élèves doivent faire des mathématiques. Ils vont être habitués à travailler davantage sur la calculatrice aussi en cours. C'est a priori plutôt une bonne chose sur long terme.
L'épreuve dure au total 2 heures. Elle comporte un questionnaire à choix multiples et plusieurs exercices de raisonnement.
Et puis encore un mot de football, ça a été officialisé hier. José Mourinho de retour au Real Madrid 13 ans après l'avoir quitté le Portugal, donc le nouvel entraîneur, avec l'objectif de relever l'équipe qui n'a pas gagné de titre majeur depuis 2 saisons.
Et il arrive à faire parler de lui en plein lancement de la Coupe du Monde. C'est aussi assez incroyable. Belle performance déjà. Merci Clara Gabillet.